ralenti son repli. Au cours des derniers jours, le billet vert reprend du terrain face à la monnaie unique européenne. Il faut désormais 1,2712 $ pour acheter 1 euro. Voilà, Claire, je vous rappelle que le CAC 40 progresse en ce moment de 0,45%. Il est à 3751 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Il y a des courses cet après-midi à Maison Lafitte, on a déjà l'arrivée de la première, 10, 5 et 15, le 17 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et c'est bien sûr avec Patrice Gélinas, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, au moment où les Américains sont en train de voter, un retour en arrière sur les quatre dernières années de leur histoire, 2000-2004, les années Bush.
I'm running for president of the United States. There's no turning back, and I intend to be the next president of the United States.
D'histoire. Quand il a posé sa candidature à la présidence des États-Unis en juin 1999, personne n'aurait parié sur la victoire de George Walker Bush. Après 8 ans passés à la Maison-Blanche, Bill Clinton et les démocrates avaient laissé derrière eux un bilan positif dont pouvait se prévaloir leur candidat Al Gore. Un pays uni et en paix, un budget et un commerce extérieur excédentaire et un État unanimement respecté dans le monde. L'élection du candidat démocrate ne devait donc être qu'une simple formalité. C'était sans compter sur les maladresses d'Al Gore, l'habileté de la campagne de George Bush et la subtilité du système électoral américain qui devait lui permettre, avec 337 000 voix de moins que son adversaire, de devenir quand même, il y a 4 ans, le 43e président des États-Unis.
Gentlemen. The President of the United States, George W. Bush.
I, George Walker Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Let us pray.
Justin Weiss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po, spécialiste des États-Unis, qui sont gouvernés depuis 4 ans par George Walker Bush, que l'on vient d'entendre quand il prêtait serment il y a 4 ans, le 21 janvier 2001, et qui est aujourd'hui candidat à sa succession, dans un contexte très différent. À l'époque, par exemple, je crois que la participation, comme d'ailleurs ça faisait couramment aux États-Unis, était assez faible. Là, elle semble beaucoup plus importante cette année. D'autre part, les thèmes de campagne sont très différents. Bien sûr, entre les deux, il y a eu le 11 septembre, mais il y a 4 ans, on parlait essentiellement, comme toujours dans les campagnes présidentielles, on parlait essentiellement de problèmes intérieurs et économiques. Cette année, c'est évidemment l'Irak, c'est le terrorisme qui font l'essentiel des débats de la campagne présidentielle.
Oui, et c'est la première fois d'ailleurs, depuis 1968, que des questions internationales, que des questions de politique étrangère, dominent à ce point la campagne. Quant à la mobilisation, en effet, on s'attend à une mobilisation exceptionnelle, et là, ça va être d'ailleurs intéressant parce qu'on va avoir une sorte de renversement. On avait coutume de dire « Ah, la démocratie américaine, elle est bien imparfaite parce que les gens ne se déplacent pas, etc. » En réalité, on va voir que là, la mobilisation est très forte. Et puis, il faut rappeler que les chiffres que vous allez entendre d'abstention se calculent par rapport aux gens qui sont en âge de voter et non pas aux inscrits sur les listes. Et que donc, il y a ce décalage par rapport à la France. Et on peut s'attendre, compte tenu des forts taux d'abstention en France au cours des dernières années, à ce que les États-Unis, au fond, montrent un taux de participation politique assez net. Supérieur à celui de la France, qui est un vrai renversement.
Alors, il y a un point commun par rapport aux élections d'il y a 4 ans, c'est que le résultat risque d'être extrêmement serré. On sait que il y a 4 ans, il y avait eu des tas de problèmes, notamment en Floride. On a tellement d'ailleurs contesté ces résultats que je crois que Newsweek disait que, au fond, le président qui venait d'être élu, George Bush, était un président accidentel. Mais c'était assez extraordinaire à quel point c'était serré. On n'avait jamais vu ça, même en 1960.
importante. Il y a eu très peu de voix d'écart entre Nixon et Kennedy.
On n'avait jamais vu ça, rappelez-vous. Il a fallu 36 jours à partir du jour de l'élection pour que finalement la Cour suprême décide de mettre un terme en réalité au recomptage des voix. Et on sait maintenant, les journaux ont fait des études depuis, que si l'on avait recompté l'ensemble des voix de l'État, c'est-à-dire de la Floride, Al Gore aurait été élu. Là, on a recompté uniquement les voix, notamment du comté de Palm Beach, les fameux bulletins dont les trous avaient été mal faits par les électeurs, etc. Donc oui, c'était effectivement un président accidentel, d'autant qu'il avait perdu le vote populaire, c'est-à-dire s'il y avait eu un système proportionnel, eh bien c'est Al Gore qui, pendant 4 années, aurait présidé aux destinées de l'Amérique.
Oui, il faut rappeler effectivement le système américain en 2 mois. Parce qu'on le fait beaucoup, évidemment, ces jours-ci, sur toutes les radios et télévisions. On ne vote pas pour un président, on vote pour de grands électeurs. Et selon que l'on est... Il suffit d'être majoritaire dans un État pour obtenir la totalité des voix des grands électeurs, ceux-ci étant plus ou moins nombreux selon l'importance démographique des États. En tout cas, finalement, Al Gore, qui avait demandé le recomptage des voix, finit par y renoncer. Et finalement, le 14 décembre 2000, eh bien, on annonce l'élection de George Bush, un président, par la force des choses, très consensuel.
Le démocrate Al Gore a jeté l'éponge, il a reconnu sa défaite et il a appelé à l'union derrière le nouveau président. Une heure plus tard, George Bush, au Texas, prenait à son tour la parole.
I was not elected to serve one party, but to serve one nation.
Je n'ai pas été élu pour servir un parti, mais pour servir une nation. Le président des États-Unis est le président de chaque Américain, de toute race, de toute origine. Que vous ayez voté pour moi ou pas, je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts. Et je travaillerai pour mériter votre respect. La présidence, c'est plus qu'un honneur ou un bureau. C'est un mouvement de l'avant qu'il faut soutenir. Et je vais m'y adonner entièrement. Merci. Et Dieu bénisse l'Amérique.
Étonnant les propos de George Bush le 14 décembre. Donc on annonce que c'est lui qui est président. Il vient d'être élu justesse, très consensuel. Vraiment, on est aux antipodes du Bush que l'on décrit aujourd'hui et qui est d'ailleurs aujourd'hui un président beaucoup plus agressif, beaucoup plus... Là, il est vraiment... Il fait preuve presque d'humilité en arrivant à la Maison-Blanche.
Oui, alors en fait, c'est amusant. Il y a plusieurs contradictions ici. D'abord, le fait que, comme gouverneur du Texas, Bush avait été, sinon consensuel, du moins, il était parvenu à s'entendre avec les démocrates qui à l'époque donc contrôlaient la législature du Texas, et il avait fait preuve de ses capacités au fond à se modérer. Donc ça, c'est la première contradiction. Comme président, au contraire, il va être un président très partisan. Et la deuxième contradiction, c'est que en effet, malgré ses mots très consensuels, il va au fond avoir une politique très marquée à droite, très partisane, en s'appuyant, alors qu'il n'a pas de mandat, il n'a pas reçu de mandat. La meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas gagné le vote parmi donc la population américaine en général. Il va mener une politique très à droite qui va le mettre aux antipodes de ce qu'il déclarait et de ce qu'il va faire, et il va contribuer à, au fond, empoisonner un peu plus le climat qui s'était très nettement détérioré sous Clinton, avec deux lignes très clairement tranchées, et il ne va pas du tout être ce président de l'Amérique tout entière qu'il annonçait qu'il allait être.
Il est président, en fait, de la droite radicale, qui s'était faite très très discrète en 2000, parce qu'elle avait été, au contraire, elle s'était manifestée ardemment pour les présidents républicains en 92, en 96. Elle avait même fait peur aux électeurs américains qui ont voté massivement pour Clinton, finalement, en 92 et 96. Là, elle s'était faite très discrète en 2000. On ne les voyait à peine, on la voyait à peine derrière George Bush.
Oui, et alors, c'est d'ailleurs une des explications pour, au fond, pour comprendre pourquoi Bush a gouverné tellement à droite, c'est qu'au fond, il ne voulait pas subir le sort de son père. Rappelez-vous, son père, donc président de 88 à 92, a raté la réélection. C'est Clinton qui, en 92, a été élu, parce que ses voix des chrétiens fondamentalistes, de la droite chrétienne, ses voix lui ont manqué, parce que Bush, a été trop pêché des voix au centre et n'a pas suffisamment dynamisé sa base. Et ça, Karl Rove, le conseiller politique de Bush, a voulu l'éviter à tout prix.
Il est encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Et qu'il est encore aujourd'hui, qui a présidé à cette
personne très importante, Karl Rove, parce que c'est toute la stratégie de Bush.
Et d'ailleurs, le fait qu'il reste aux côtés de Bush pour ces 4 ans à venir, si Bush est réélu, indique que la seconde présidence Bush sera probablement plus proche de la première que d'une quelconque modération que certains prédisent.
Alors en 2000, quand Bush est élu, quand il prend ses fonctions en janvier 2001, le 11 septembre n'est pas encore arrivé, on est à quelques mois du 11 septembre, le grand thème de campagne, c'était des problèmes intérieurs, et essentiellement essentiellement la politique économique et fiscale. Le thème de favori de Bush quand il s'est présenté, et d'ailleurs il tiendra parole, c'est une réduction massive des impôts, Justin Weiss.
Oui, c'est vraiment son, au fond, son, sa marque de fabrique pour cette campagne, et en effet, là pour le coup, il a dit ce qu'il allait faire, et il a fait ce qu'il a dit, puisqu'il a fait passer au Congrès, en dépit de l'étroitesse de sa majorité républicaine, et même à certains moments de la majorité démocrate au Sénat, il a fait passer plusieurs réductions d'impôts qui ont fait passer le budget fédéral des États-Unis d'un excédent énorme compté en plusieurs milliers de milliards de dollars à un déficit, et à un déficit qui pour l'instant, si les choses ne sont pas ne changent pas, est prévu pour de nombreuses décennies.
2600 milliards de dollars de réduction d'impôts, essentiellement pour les privilégiés. Il s'agissait essentiellement de réduire les impôts sur les dividendes, sur les plus-values des actions boursières, sur les droits de succession. En fait, c'était destiné à un petit nombre d'Américains. Pour quelle raison? Pour relancer la consommation?
Oui, pour relancer la consommation, c'est la théorie économique de l'offre. Ce qu'il faut dire, c'est d'une part que chaque Américain, tous les Américains qui payent des impôts en ont un peu profité, mais les classes moyennes et les classes moyennes inférieures en ont moins profité proportionnellement que les classes supérieures, mais malgré tout, elles ont vu une petite réduction. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a ici un peu une dissonance franco-américaine. Ces réductions d'impôts sont passées beaucoup mieux aux États-Unis, où le sentiment contre l'État fédéral, contre l'impôt, est beaucoup plus fort que ce qu'il est en France, et aussi parce que les gens ont une culture différente. Les gens estiment que, oui, peut-être un jour, sinon eux, du moins leurs enfants, auront une situation plus enviable qu'à présent, et il est légitime d'être riche, et donc il est légitime que les riches, eux aussi, aient des réductions d'impôts. Donc il y a un peu une différence de perception qui explique que beaucoup de gens qui sont économiquement défavorisés continuent à voter pour Bush.
Bush, donc, il voulait ces réductions d'impôts avec des arguments très simples. La raison pour laquelle je crois en une baisse d'impôts, c'est avant tout parce que j'y crois, dit-il au Washington Post le 18 décembre 2000. Ça fait partie des nombreuses perles de Bush comme celle-ci. Cet argent est le vôtre, vous avez payé pour l'avoir. Ou encore, de plus en plus, nos importations viennent de l'étranger. Notre nation doit s'unifier pour se réunir, c'est extraordinaire. Ou alors celle-là encore, je pense que tous ceux qui ne pensent pas que je sois assez malin pour la tâche présidentielle sont en deçà de la réalité. Ça, il a dit ça à Tampa le 4 juin 2001. Alors ça crédite l'idée d'un président un peu béné, sinon idiot. Qu'est-ce que vous en pensez, Justin Weiss?
Je pense que c'est une idée qui est profondément fausse. Je pense que il est faux de dire que Bush n'est pas intelligent. Ce qui est sûr, c'est que il est peu cultivé, il est peu curieux du monde extérieur, il n'est vraiment pas du tout intellectuel. En revanche, dire qu'il n'est pas intelligent, c'est réduire cette notion d'intelligence à justement ses attributs de culture, de connaissance, de culture générale. Je pense que Bush a beaucoup joué, beaucoup bénéficié de cette image de bené, de moron, comme l'une des ministres québécoises l'avait traité de moron, donc de crétin en gros. Il en a bénéficié parce qu'à chaque fois, on s'attend à ce qu'il soit au fond plus bête. Et ça a été le jeu constant de Bush pendant ces différentes élections. Il y en a eu assez peu, essentiellement au Texas et à la présidentielle de 2000. Il a fait baisser les attentes, de sorte que, au fond, à chaque fois, on était étonné qu'il était, au fond, meilleur que l'image qu'on s'en faisait. Donc, chaque fois que les gens répètent qu'il est bête, qu'il manque d'intelligence, etc., il joue, en fait, politiquement en faveur de Bush, qui s'en tire mieux que prévu. Et donc, non, je pense que c'est son propre homme, comme on dirait en anglais, et qu'il est loin d'être bête.
En tout cas, donc, il désire la baisse d'impôts pour relancer l'économie. L'économie est d'ailleurs à laquelle il est prêt à tout sacrifier, y compris l'avenir, en refusant par exemple de ratifier le protocole international de Kyoto, signé en 1997, et qui prévoyait de lutter contre le réchauffement de la planète en réduisant l'émission de gaz à effet de serre. France Inter, Denis Estagnaud, le 29 mars 2020.
George Bush se moque bien de l'effet de serre. Il refuse d'appliquer le protocole de Kyoto qui vise à lutter contre le réchauffement climatique de la planète. George Bush vient à l'instant de l'expliquer à Washington.
À propos des effets du CO2, j'expliquerai aussi clairement et aussi souvent que j'en aurai l'occasion que je ne ferai rien qui puisse porter atteinte à notre économie. Parce que d'abord et avant tout, contre ceux qui vivent en Amérique, c'est ma priorité. C'est dans notre intérêt national de développer une politique énergétique solide, avec une politique de l'environnement basée sur des règles de bon sens. Et je l'expliquerai à nos amis. Et c'est dans leur intérêt, par la même occasion, que notre économie reste fort. Nous sommes un gouvernement de libre-échange, nous commerçons les uns avec les autres.
C'était George Bush refusant donc que les États-Unis réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment, il se moque de l'écologie ou de l'environnement comme de sa première botte, Justin Weiss.
Oui, et c'est surtout l'affirmation d'un style diplomatique assez unilatéral qui va lui coûter beaucoup. C'est-à-dire s'il avait dit, bon, je ne suis pas contre faire quelque chose, mais le Congrès ne veut pas, il faudrait renégocier ce traité, ça serait passé très bien. Et beaucoup de pays ou d'opinions publiques plutôt pro-américaines l'auraient suivi là-dessus. Alors que là, à cause de ce style abrasif, à cause de ce style offensif, il s'est coupé de très nombreuses personnes.
Et de très nombreux pays, enfin ça a beaucoup choqué à l'étranger. Alors que Bush, à l'époque, nous sommes toujours avant le 11 septembre 2001, Bush a une politique étrangère extrêmement prudente, traditionnelle, presque isolationniste.
Oui, c'est ça. Il arrive sur un programme où il dit qu'il faut que l'Amérique soit humble. Il dit qu'il faut que l'Amérique arrête de faire du nation building, c'est-à-dire d'intervenir dans des pays, d'y reconstruire l'État, de démocratiser, etc. Et où il est relativement offensif vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Évidemment, tous ces différents points d'agenda, en quelque sorte, qui sont tous l'inverse de ce que Clinton avait fait, vont se retrouver inversés avec le 11 septembre.
Le 11 septembre, quand les États-Unis se sont retrouvés donc confrontés aux plus graves problèmes qu'ils aient pu être, auxquels ils aient pu être confrontés sur leur propre sol depuis Pearl Harbor, c'était donc effectivement le 11 septembre 2001.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours.
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country.
Des ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Ceci en l'espace d'une seule journée. La nuit est tombée sur un monde différent. Un monde où la liberté elle-même est attaquée. L'Amérique ne doit pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue campagne, différente de toutes celles que nous avons connues. Chaque nation doit maintenant prendre sa décision. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes.
Et c'était George Bush après les attentats du 11 septembre. Là, c'est un changement de ton complet et un changement, on comprend pourquoi, total dans la présidence même de George Bush. D'abord, cet homme qui n'a pas une grande popularité depuis son élection tangente un an plus tôt, brusquement devient extraordinairement populaire. Toute l'opinion se mobilise derrière lui malgré ses hésitations du début. On se souvient de son désarroi quand il a appris ça en Floride, dans une école de Floride. On s'est beaucoup moqué, mais en réalité, l'opinion est à fond derrière celui qui devient, au fond, leur général en chef.
Exactement. Véritablement, Bush trouve à ce moment-là un mandat, et il le dit, il trouve au fond sa mission, en quelque sorte, et le sens de sa présidence. Et on le voit encore dans la campagne qui vient de s'achever, la campagne présidentielle. I'm a war president, je suis un président de guerre. C'est bien le 11 septembre qui va définir toute la présidence de George Bush. Et en effet, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire, ça n'est pas simplement lui qui se saisit d'un moment d'opportunité, c'est vraiment l'Amérique qui est prête à, au fond, à le reconnaître comme un chef, à lui donner un mandat qu'il n'avait pas vraiment eu par les urnes, et donc à lui faire confiance pour la guider dans ces moments difficiles.
Et même à accepter, quand même, ce qui est rare aux États-Unis, que l'on puisse réduire, au fond, les libertés. C'est quelques jours ou quelques semaines, je crois un mois et demi après les attentats du 11 septembre, Justin Weiss, qu'est voté le Patriot Act. Vous pouvez peut-être nous rappeler en quoi il est important, quand même, dans l'histoire des États-Unis.
Alors, c'est une restriction des libertés civiles qui a pour but, évidemment, de favoriser la guerre contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Alors, on le présente souvent en termes apocalyptique, c'est vrai qu'elle représente de réels, au fond, retours sur certaines libertés civiles, la possibilité, je ne sais pas, de garder à vue les gens plus longtemps, la possibilité de regarder les livres dans les bibliothèques, etc. Cela dit, j'ajouterai deux choses. D'abord, le fait que...
De pouvoir écouter, quand même, je crois, les communications par téléphone ou par Internet, et de prolonger de cette semaine la détention provisoire des étrangers en situation irrégulière.
Oui, mais là, rappelons deux choses. D'abord, qu'un certain nombre de ces clauses, et notamment parmi les plus importantes, arrivent à échéance en 2005 et doivent être soit confirmé par le Congrès, soit au contraire, elles arriveront, tout si, elles, si le Congrès n'est pas d'accord pour les voter à nouveau, elles arriveront, au fond, c'est ce qu'on appelle la sunset clause, le soleil va se coucher sur un certain nombre des clauses de ce Patriot Act. Et la deuxième chose, c'est que les États-Unis partaient d'un niveau qui était beaucoup plus libéral, par exemple, que le niveau français. Ce sont les lois antiterroristes de 86 et la loi plus récente de 2002 qui avaient, pour nous, qui ont tout de même beaucoup changé les choses avec la DST, les RG, etc. Si l'on compare pays par pays, bien sûr, il y a eu revers en quelque sorte pour les libertés civiles aux États-Unis, mais on partait d'un niveau de protection beaucoup plus élevé. Donc je relativiserai un tout petit peu cet aspect-là des choses.
En tout cas, après le 11 septembre, Bush obtient un soutien populaire considérable d'une immense majorité de l'opinion publique, pas seulement d'ailleurs à l'intérieur des États-Unis, mais aussi à l'extérieur. On se souvient que Jacques Chirac était le premier chef d'État à se rendre à New York après le 11 septembre. Là, vraiment, il y a une espèce de coalition énorme qui se forme derrière les États-Unis et qui approuve d'ailleurs leur intervention en Afghanistan.
Nous sommes tous des Américains, on se souvient de l'éditorial de Jean-Marie Colombani dans Le Monde, et en effet, c'est vraiment le sentiment qui domine dans l'opinion publique mondiale. Le soutien à l'opération d'Afghanistan, et ça, il faut le rappeler parce que, évidemment, c'est un contraste très fort avec l'Irak, est fort. Il est fort, par exemple, en Allemagne, il est fort en France, dans l'opinion publique, c'est un soutien de 68 à 75% en gros, et les gouvernements, en effet, appuient les États-Unis, et cette opération se déroule, elle se déroule d'ailleurs bien. Rappelez-vous de tous les, au fond, de tous les gens qui prédisaient un enlisement éternel des États-Unis en Afghanistan, comme les Britanniques et les Russes. C'est une opération rondement menée, et menée, en effet, avec le soutien international.
Ce qui va changer un an et demi plus tard, quand George Bush décide l'invasion de l'Irak, soupçonné par lui de disposer d'armes de destruction massive, un prétexte qui sert à justifier le déclenchement de l'opération américano-britannique, Liberté de l'Irak, en mars 2003.
The game is over.
Les sirènes ont retenti dans Bagdad. Un premier bombardement a frappé la capitale irakienne à 3h35, heure française précisément. Deux autres raids ont suivi.
My fellow citizens, mes chers concitoyens, à cette heure, la force de coalition a commencé les opérations militaires de désarmement de l'Irak pour libérer
the world from grave danger.
Les Irakiens ont libéré le monde d'un grand danger. La coalition a commencé à frapper des cibles pour empêcher Saddam Hussein de faire la guerre.
Et c'était le début de l'intervention américaine en Irak en mars 2003 pour y trouver des armes de destruction massive qui n'existaient pas, pour renverser un régime soi-disant lié à Al-Qaïda, ce qui n'était pas le cas, pour amener la liberté en Irak, qui se trouve dans le chaos quand même depuis plus d'un an. C'est vraiment un bilan terrible. Au fond, un an et demi après cette intervention américaine, d'abord sur le plan diplomatique, c'est l'isolement des États-Unis. Cette fois-ci, non plus en Irak, la coalition dont ils disposaient pour l'Afghanistan.
Oui, et même si sur le papier, il y a tout de même une trentaine de pays qui soutiennent les États-Unis, on sait bien que ce soutien provient des gouvernements et certainement pas des opinions publiques. Donc là, il y a bien un phénomène d'isolement relatif, bien sûr, hein, parce qu'il y a tout de même des pays comme le Japon, par exemple, comme évidemment la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., qui sont des pays importants, qui ont soutenu les États-Unis. Mais du point de vue des opinions publiques, le résultat est en effet catastrophique.
Ah oui, on a vu d'ailleurs, bon, c'est étroitement lié à l'Irak, mais que les sondages dans tous les pays du monde, pratiquement, sauf en Russie, donnaient Kerry largement gagnant, alors qu'aux États-Unis, c'est encore pas décidé. Alors ça, bon, isolement sur le plan diplomatique, et puis aussi discrédit. Il y a eu évidemment ces bavures avec de gros guillemets, parce que c'est plus grave que des bavures, ce qui s'est passé, par exemple, à la prison d'Abu Ghraib, ou encore la détention actuellement à Guantanamo d'un certain nombre de prisonniers en Afghanistan, au mépris de toute loi. On a l'impression, au fond, que c'est fini, un peu comme à l'époque du Vietnam, que c'est fini l'innocence des États-Unis et le bien fondé de leurs interventions.
Oui, au fond, cette innocence s'était refondée au moment du 11 septembre et au moment de l'Afghanistan. C'était l'énorme crédit et l'énorme, au fond, cote d'affection, cote d'amour que les différents peuples avaient porté aux Américains et le crédit qu'ils étaient prêts à donner au gouvernement américain. En réalité, en effet, avec l'invasion de l'Irak, avec le discrédit sur les armes, avec Abu Ghraib, tout ce crédit, au fond, se dilapide peu à peu, et il n'y a plus que quelques pays, en effet, pour soutenir Bush, pour soutenir l'administration Bush, essentiellement ceux qui souhaitent, au fond, que la situation perdure, et les États-Unis se retrouvent dans une situation internationale où, au fond, leur puissance, non pas leur puissance militaire, même si on pourrait en parler, mais leur puissance globale, leur puissance internationale, leur capacité à influencer les autres pays, se retrouvent obérée. Alors, Pour ce qui est de l'Irak, évidemment, il faudra juger plus tard. Pour l'instant, le bilan est tel que vous l'avez décrit, c'est-à-dire désastreux, c'est le chaos. Non seulement on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive, mais en plus la stabilité n'est pas assurée. Bon, il faudra voir si dans 5 ans, dans 10 ans, le bilan est un peu meilleur. Ce qui est sûr, c'est que sur la première année, les deux premières années, il est catastrophique.
Oui, et cela bien après que Bush lui-même ait annoncé la victoire en Irak, on s'en souvient, sur un porte-avions. Il y a 1000 morts quand même, 1000 soldats américains tués, je ne peux sans parler des enlèvements d'otages, etc. C'est quand même, ça aussi, c'est un autre bilan, une Amérique profondément divisée, comme elle a rarement été depuis le Vietnam, là encore, Justin Weiss.
Oui, la présidence Bush, on en parlait tout à l'heure, a été très polarisante, c'est-à-dire qu'en effet, on l'a vu pour cette élection, on l'a vu dans tous les sondages, les gens qui n'étaient pas décidés, qui hésitaient encore entre Bush et Kerry, étaient finalement peu nombreux. Hein, on disait que c'était une élection 45-45-10, c'est-à-dire 45% de personnes d'Américains qui étaient décidés à voter Bush, 45% à voter Kerry, et seulement 10% qui étaient peu décidés. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, les intentions de vote, en réalité, depuis ce printemps, tout varie entre, en gros, 43-45 au minimum pour Kerry, et puis à 54-55 maximum pour Bush, et vice-versa.
Et malgré un bilan quand même qui ferait battre n'importe quel candidat en Europe, je pense en France, là, il est question de voir éventuellement reconduire George Bush. C'est quand même, ça peut surprendre quand même, Justin.
Oui, et alors c'est là qu'il faut prendre en compte, au fond, l'événement structurel, l'événement historique, vraiment de long terme, le plus important de cette présidence, c'est l'effet 11 septembre. C'est-à-dire que l'Amérique est en guerre et au fond revient à des tendances qu'on avait vues pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, à certains moments de la Guerre froide, etc. C'est-à-dire que l'opinion publique est beaucoup plus, au fond, beaucoup plus prête à laisser, je dirais, la bride sur le cou du président, à lui faire confiance et à considérer qu'en temps de guerre, eh bien, on ne conteste pas le président parce que il faut serrer les rangs, parce qu'on est attaqué. Et je pense que ça va très profondément et on le voit en effet dans le fait qu'en dépit de toutes les casseroles qui s'attachent peu à peu à Bush, eh bien, au fond, il soit un peu ce président téflon qui résiste à l'usure parce qu'il y a cet effet 11 septembre.
Ben ça, on le saura ce soir ou peut-être, comme il y a 4 ans, au bout de plusieurs jours après décomptage des voix. Je rappelle, Justin Weiss, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Washington et le monde, dilemme d'une superpuissance, un livre écrit avec Pierre Asner et publié l'an dernier chez Autrement. À lire également beaucoup de livres, parmi lesquels je recommande Ce que nous avons perdu, comment l'administration Bush a blessé l'Amérique et le monde, de Graydon Carter, publié chez Grasset, Bushland 2000-2004 de William Raymond, publié chez Flammarion, et enfin Les Amis Bush, le président vous parle, j'en ai sorti quelques extraits, paru au Cherche Midi. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaëtan Collier et Michel Thomas, documentation et archives sonores Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser, Amélie Briand et Caroline Chausset.